près du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour. De tout temps, l'homme s'est inspiré de la nature dans sa façon de vivre, de construire ou de produire. Et aujourd'hui, le biomimétisme fait émerger de nouvelles solutions pour rendre la ville plus intelligente, durable, avec pour objectif zéro déchet et zéro pollution. Alors, quelles sont ces inventions inspirées de la nature? Quels sont les principes à respecter pour créer une ville biomimétique? Cette ville idéale est-elle un simple rêve inaccessible ou une obligation pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux de nos cités? C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, direction le siège de l'UNESCO à Paris pour parler de la finale d'un tournoi pas comme les autres. Vous êtes prêts? Attention. Et hop! Nous voici donc au siège de l'UNESCO à Paris pour la finale d'Ambassadeurs en Herbe, une joute oratoire entre élèves venus de différents pays autour du thème climat et responsabilité. Pour en parler, nous sommes avec Hélène Farnaud de Fromont, directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui organise cet événement en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO. Hélène Farnaud de Fromont, bonjour.
Bonjour.
Comment est né ce projet d'Ambassadeurs en Herbe? On est dans la deuxième édition, hein, puisque ça avait commencé l'année dernière. Comment est né le projet?
Le projet est né de l'envie de faire que nos élèves, les élèves des lycées français de l'étranger, partout dans le monde, puissent se rencontrer, parce qu'ils n'ont pas toujours conscience d'appartenir à un grand réseau mondial qui effectivement est présent dans 130 pays différents. Ça leur permet, au terme d'un concours assez difficile, de se retrouver d'abord au niveau d'une région, d'une zone géographique, en Asie, en Europe, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, et puis ensuite pour les meilleurs ou les plus chanceux, de se retrouver à Paris. Et donc, ils ont conscience d'appartenir à une grande famille, la grande famille des lycées, des écoles et des lycées français à l'étranger, avec des dizaines de nationalités différentes, d'enfants qui reçoivent la même éducation, s'expriment en français, mais aussi s'expriment dans la langue natale, la langue du pays, parce qu'on fait en sorte qu'elle ait toujours une place très importante au sein de leur école ou de leur lycée, et également d'autres langues, donc l'anglais, bien évidemment, mais aussi une grande diversité, la possibilité d'apprendre beaucoup de langues. Et la plupart des élèves, quand ils arrivent au lycée, en général, parlent au moins trois langues de manière quasi parfaite, la parlent et l'écrivent.
Alors, le thème de la première édition d'Ambassadeurs en Herbe était l'égalité homme-femme. Comment était choisie la thématique de cette deuxième édition, climat et responsabilité?
On l'a choisi parce que il y a une échéance importante en France, à Paris, à la fin 2015, qui est la conférence des Nations Unies sur le climat, qui sera accueillie pour la première fois donc dans notre pays. Même si climat et responsabilité, ça paraît un thème extrêmement abstrait a priori, je crois que ils comprennent tout à fait de quoi on parle et ils vont en parler de manière extrêmement concrète.
Je voudrais qu'on accueille notre autre invité, Nicolas Hulot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Alors, je rappelle que vous êtes envoyé spécial du président de la République pour la défense de la planète. Quand vous êtes face à cette jeune génération, vous vous dites, les pauvres, dans quel état on va leur laisser la planète? Ou au contraire, il y a de l'espoir avec l'avancée de la science, ils vont s'en sortir?
Il y a évidemment de l'espoir, parce que je pense que nous avons évidemment des solutions possibles. La seule chose qui fait défaut, c'est la volonté collective et coordonnées. Si demain l'humanité, et demain à Paris par exemple, était capable de s'asseoir autour d'une table, de mettre de côté leurs préjugés, de mettre en commun ce qu'elle a de meilleur sur un plan technologique, sur un plan scientifique, de mettre en commun les moyens économiques, etc., de fixer ses priorités, nos enfants peuvent être précipités dans un monde supérieur en termes de qualité. Et à l'inverse, si on continue à mutualiser nos égoïsmes, on risque de les précipiter dans un monde chaotique. On avait dit dans un autre combat, indignez-vous. Moi, j'ai pas envie de leur dire indignez-vous. Réveillez-vous, c'est-à-dire exprimez-vous, dites aux responsables politiques par différentes manières. Voilà, changez le monde. Mettez de côté vos conflits habituels, fixez des priorités. Et la priorité absolue, c'est les changements climatiques. J'étais à Madagascar il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui cultivait du riz me disait, à cause des changements climatiques, ils ont deux récoltes de moins par an. Un autre qui élevait des zébus m'expliquait qu'il avait maintenant des problèmes de pâturage. On se rend pas compte, mais tout le monde est déjà impacté. En les regardant, J'ai de l'espoir et de l'inquiétude mêlés et je me bats avec d'autres pour que ça soit l'espoir qui l'emporte.
Et justement, on a des représentants d'Afrique et de l'océan Indien. Quand on liste les problèmes, vous en avez évoqué certains, on a donc dérèglement climatique, déforestation, pollution liée à l'exploitation anarchique des gisements naturels. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour le continent africain ?
Il faut souhaiter que non, et la réponse elle est au jour d'aujourd'hui non, mais la fenêtre de ce que l'on peut faire ou pas faire se réduit de jour en jour, parce que à force de repousser en permanence l'effort, à force d'aller de conférence en conférence et pour finir d'aller d'échec en échec, les phénomènes ne nous attendent pas. Si on avait pris en compte l'érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources, les changements climatiques il y a 20 ans au moment du premier sommet de Rio, le coût économique et la réponse technologique seraient beaucoup plus simples. Et à force de repousser, le coût, l'investissement est de plus en plus important. Mais non, honnêtement, les années qui viennent sont déterminantes, mais il va falloir encore une fois qu'on mette de côté un certain nombre d'égoïsmes, qu'on s'extrait de nos postures nationales. C'est-à-dire, là, c'est pas la France ou l'Europe qui défend son intérêt. C'est la famille humaine, c'est un peu ce que je viens de dire aux jeunes ici.
Désunis, malheureusement.
Oui, mais ça peut être, à l'inverse, une extraordinaire occasion si, à un moment, on perçoit cette menace, mais en même temps, cette opportunité commune de nous retrouver. C'est pour ça que je dis que la première révolution, c'est la révolution de l'esprit. Il faut se voir tel que nous sommes. Au-delà de nos cultures, de savoir qu'on est blanc, qu'on est noir, qu'on est au sud, qu'on est riche, qu'on est laïque, qu'on est religieux. Là, on est comme une petite communauté de naufragés perdus sur une petite tête d'épingle qu'on appelle la planète et soumis aux mêmes menaces, aux mêmes défis.
Vous, quand vous rencontrez tous ces grands responsables politiques, sur quoi insistez-vous dans votre plaidoyer ? Comment faire pour concilier les intérêts des uns et des autres, des Chinois, des Africains et des Européens ?
J'insiste sur un point, c'est que personne ne pourra tirer son épingle du jeu.
Qu'est-ce que vous attendez des prochains sommets sur le climat, New York et Lima en 2014, puis Paris 2015 ?
Alors, New York...
Pas grand-chose ?
Si, énormément, parce que toutes les étapes avant la conférence de Paris sont cruciales. Si on attend que tout se passe à Paris, ça sera trop tard. Il y a des sujets très importants à traiter à New York, notamment les promesses de financement pour les pays du Sud pour s'adapter, qui n'ont pas été tenues. Les problèmes de transfert de technologie...
Vous pensez qu'ils seront tenus, pardon de vous couper, mais en cette période de crise économique, vous pensez qu'on peut les tenir, ces engagements, justement ?
En tout cas, c'est ce qui fait que si on veut avoir un accord commun à Paris, un accord juridiquement contraignant, que chacun prenne sa part de responsabilité, il faut rétablir la confiance sur ces processus-là. Et la confiance, elle a été brisée simplement parce que les promesses n'ont pas été tenues. Si les chefs d'État qui sont réunis par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, si ce problème n'est pas traité à New York, dans les G8 et dans les G20, avant la conférence de Paris, ça plombera les chances de succès de Paris et la conférence de Lima aussi. Donc c'est des sujets pour moi très importants et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Ban Ki-moon apprécie cette initiative, c'est qu'il a conscience que là, c'est du niveau des plus hauts responsables politiques et c'est à eux, notamment à New York, de prendre en main ces vrais sujets.
Revenons-en à Ambassadeur en herbe. Hélène Farnot de Fromont, la finale est donc organisée sur 2 jours. Alors comment ça se passe ? Y a-t-il des prix à gagner ? Faites donc rêver nos auditeurs. Et surtout, que se passe-t-il après ? Est-ce que les enfants sont amenés à réfléchir à cette thématique du climat tout au long de l'année et dans leur scolarité, peut-être future ?
Effectivement, pendant 2 jours, donc les lauréats vont se retrouver au sein de différents groupes et donc vont non pas s'affronter mais se rencontrer sur ce thème.
Sont des joutes oratoires, donc ils vont s'affronter verbalement.
Ils vont échanger des arguments, des idées et essayer d'illustrer leur démonstration par des cas concrets. On a beaucoup insisté là-dessus dans la langue du pays du lycée français d'où ils viennent. Plus avec des synthèses, des médiations en anglais.
En anglais.
Bon, voilà, donc ce sera systématiquement trilingue.
Moi, je serais très curieux d'avoir le résumé des arguments qu'ils vont développer.
Absolument.
Parce que parfois, comme je me sens à court d'arguments, peut-être que je vais pouvoir renouveler mon stock d'arguments.
Parfait.
Voilà. Oui, la planète. Oui, braves gens. Terrible nouvelle. Danger imminent. S'est envolé, perdu quelque part, peut-être au bout de l'autre monde. Il n'est question de salut, de le retrouver, de lui dire à quel point il compte. C'est le papillon qui bat de l'aile, veut jouer à qui mieux pour Fanlo. Il fallait bien qu'un jour il se rebelle, autant vous dire que ce sera chaud. C'est le papillon dans la tourmente, qui
Terre est aux abois, pleure la vie qu'il avait avant qu'elle ne déchante, car la terre était son paradis. Oui, la planète, oui, et braves gens, que tous ceux et celles croient qu'il est encore temps de bouger les choses, de se donner la main pour que nos enfants, droit tout comme nous à une vie meilleure, se joignent à nous maintenant pour retrouver le papillon qui bat de l'aile, le joueur qui vole le plus haut. Il fallait bien qu'un jour il nous rappelle qu'ici bas nous sommes alter ego.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes à l'UNESCO à Paris pour la finale d'Ambassadeurs en Herbe, une joute oratoire entre élèves venus de pays différents autour du thème climat et responsabilité. Pour en parler, nous sommes avec nos invités. Hélène Farnaud de Fromont, directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui organise cet événement en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO, et Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la défense de la planète. Et les élèves, évidemment, ils sont là, tous les élèves. Bonjour, enfin pas tous, non, 5 représentants de l'île Maurice, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de Madagascar. Alors, qui veut parler? Est-ce que c'est difficile déjà d'arriver en finale? Et puis, ça fait quoi d'être à Paris, ici à l'UNESCO?
Bonjour, moi je m'appelle Corentin, je viens de Madagascar. Quand je suis arrivé à Paris, c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant de voir les autres. Ils étaient tous assez décontractés. Et puis, voir Paris, la Tour Eiffel, les bâtiments qui l'entourent, c'était une bonne expérience pour moi.
Allez, on passe le micro à notre représentante de l'île Maurice. Est-ce que c'est difficile d'arriver en finale d'ambassadeur en herbe? Et quel était un peu le parcours? Il y a eu déjà des joutes oratoires avec d'autres élèves avant d'arriver à cette finale. Comment ça se passe le tournoi? Explique-nous.
En fait, il y avait une sélection nationale tout d'abord. Donc, au sein de notre établissement, donc le lycée des Mascareignes à Maurice, qui est dans le centre de l'île, et ben il y avait eu notre prof d'histoire, monsieur Quest, qui nous avait proposé de participer à ce concours. Et donc on avait eu 3-4 semaines de préparation avant, et il y avait eu des joutes qui s'étaient faites à l'école pour sélectionner 5 représentants de l'île Maurice. Ensuite, nous sommes tous allés à Madagascar, donc à Antananarivo, où nous avons rencontré nos coéquipiers de l'équipe de l'Afrique de l'Est. Qui sont actuellement.
Donc vous êtes coéquipiers tous les trois là, les deux représentants de Mada et de l'île Maurice,
et de
l'Afrique du Sud.
Voilà. D'accord. Nous sommes rencontrés à Madagascar en fait. Et à partir de là, il y a eu des joutes qui se sont faites chez l'ambassadeur de France, où nous avons pu rencontrer des personnalités importantes. Et à partir de là, nous avons été sélectionnés encore pour arriver à Paris, donc il y a quelque chose d'extraordinaire franchement. Et moi je suis très 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 contente d'être là. Surtout d'être au siège de l'UNESCO, c'était un peu inaccessible, rien que d'y penser. Et puis là, j'y suis et c'est assez impressionnant.
Allez, on continue notre tourne-table avec un autre représentant de Madagascar. Bienvenue, jeune homme, peux-tu te présenter et puis nous dire si toi, par exemple, en famille ou à l'école, tu abordes justement ces questions du dérèglement climatique?
Bonjour, je m'appelle Gabriel. Quelquefois, en famille, on parle du climat parce que mon père, il fait des missions de santé dans plusieurs îles dans le monde. Et par exemple, dernièrement, il est allé aux Comores et il m'a dit que là-bas, le climat est très influencé parce que les gens ne respectent pas la mer. D'ailleurs, depuis quelques temps, dans certaines îles, il n'y a plus de plage. Déjà parce que c'est assez volcanique là-bas, mais aussi et surtout parce que les gens polluent et du coup le niveau d'eau monte.
Et notre dernière représentante, peux-tu te présenter également?
Bonjour à tous, je m'appelle Hermine, je viens de Dakar au lycée français de Jean Mermoz.
Peux-tu nous parler justement des problèmes environnementaux qui touchent le Sénégal et dont tu as entendu parler? Et pareil, est-ce que tu en parles en famille? Est-ce que tu suis ça dans les médias?
On a surtout de l'érosion côtière et de la pollution parce que la mer avance de plus en plus, on n'y fait pas attention. Et par exemple, dans la ville de Rufisque, il y a les cimetières marins.
Donc à côté
marins.
De Dakar, ouais.
Voilà, à côté de Dakar, il y a des cimetières marins parce que au Sénégal, quand on est enterré près de la mer, ça signifie l'infini, etc. Et donc, ces cimetières marins ont été envahis par la mer et les corps ont été déterrés parce que, à cause de l'érosion côtière, elle avançait et elle a fini par arriver jusqu'à l'endroit où les morts étaient enterrés. Et puis, la ville de Dakar est très très polluée. Il y a des champs entiers remplis de sacs plastiques. On voit même des arbres où les sacs plastiques sont pendus carrément, comme si c'était les fruits. Mais la gestion des déchets à Dakar, elle est pas du tout complète et les Dakarois font pas du tout attention à jeter leurs déchets par terre et tout ça. Puisque les enfants voient leurs parents le faire, ils se disent que voilà, il n'y a pas de mal. Et donc, puisqu'ils ne sont pas très éduqués vis-à-vis de ça, bah, ça, ils laissent tomber. Ils ne s'intéressent pas à ça.
Alors, vous, quel regard vous portez, et là, je vous pose la question à tous, quel regard vous portez sur les adultes qui sont censés apporter des solutions à ces problèmes environnementaux? Est-ce que vous pensez qu'ils agissent de façon responsable ou non?
Par exemple, à Madagascar, les adultes, c'est la plupart, ils sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de brûler les terres. Et ils pensent que ça leur apporte plus de fourrage pour leurs zébus, mais ça leur apporte à rien vu que au bout de 2 ans, c'est fini et ils sont obligés de rebrûler d'autres terres. En fait, à cause de la pauvreté, ils sont obligés de, on va dire, ils sont tellement influencés par la mondialisation que certains même travaillent pour des gens. Par exemple, pour quelques pièces d'arrière, ils sont
donc l'arrière, c'est la monnaie à Madagascar.
Oui, ils sont capables de brûler, de piller des endroits, quelquefois certains au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme une petite partie de la forêt d'Ambouille.
Et oui, avec le problème de la déforestation. Tu voulais rajouter un petit mot, Corentin, donc toi aussi tu es de Madagascar.
Oui.
Les adultes et les hommes politiques notamment, qu'est-ce que tu en penses toi?
Personnellement, je ne peux pas me prononcer sur les hommes politiques, mais moi je veux plus parler sur tout ce qui est les sociétés extrêmement riches, qui disons dominent le monde économiquement, et qui franchement c'est elles qui devraient faire un effort. Et la plupart du temps, elles ne pensent qu'à s'enrichir économiquement en détruisant la forêt.
Alors est-ce que vous pensez justement que les adultes en général sont un peu irresponsables? Et qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites que vous allez avoir des choses à gérer plus tard et qu'il faudra vous montrer plus responsable? Et peut-être que ces joutes oratoires d'ambassadeurs en herbe sont une façon déjà de vous préparer à l'avenir. Quelle réflexion par rapport à ça?
Moi, je pense qu'il y a certains adultes qui sont responsables et qui font de leur mieux pour améliorer le sort de la planète, mais tout le monde n'a pas les capacités ni la possibilité de faire tout ce qui est en leur pouvoir. Mais si chacun mettait un peu du sien, par exemple, si moi je mange, une friandise et que le papier je le jette dans une poubelle au lieu de le mettre par terre, si on fait tout ça, au bout d'un moment il y aura plus de déchets dans la rue, même si on aura toujours. Après, on pourra, si dans la rue c'est sale, et si on faisait tous un effort, on pourrait arriver à un mieux vraiment considérable.
Oui, parce que toi tu nous parlais des déchets à Dakar, parce que tu es la représentante du Sénégal. Est-ce que vous sentez que vous avez une mission par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Comment vous voyez l'avenir? Alors notre représentante de l'île Maurice.
En fait, moi, je reviens un peu sur ce que Nicolas Hulot a dit en disant qu'il fallait s'unir pour pouvoir mieux avancer. Et je reviens également sur la question que vous avez dite en parlant de responsabilité envers les adultes. Il y en a effectivement qui sont extrêmement, qui ont conscience de ce qui se passe et qui veulent absolument faire un effort, qui essayent d'aider par tous les moyens. Et je pense notamment à la course contre la faim, qui est une grande course organisée dans toutes les écoles françaises du monde, le même jour, et où les enfants doivent chercher des sponsors qui leur financent. Par exemple, à Maurice, l'argent est la roupie, et pour 1 kilomètre, la société ou la personne qui le finance donne 10 roupies. Donc, dépendant du nombre de kilomètres qu'on fait, on gagne de plus en plus d'argent, qui est après donné à une association, qui est, on voit ça dans des pays pauvres, donc cette année c'était pour Madagascar. Après, ça va dans des centres où les familles sont éduquées, elles sont aidées financièrement, et du coup, elles ont une éducation plus approfondie au niveau de l'écologie. Comment s'occuper de leurs champs? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la nourriture? Et c'est aussi au niveau de la santé, de la pauvreté qui est réduite et qui est améliorée en même temps.
Eh bien, merci à tous les 5 d'être venus dans ce studio improvisé à l'UNESCO à Paris. C'était un plaisir d'entendre vos réflexions extrêmement pertinentes sur ce sujet. Quant à vous, chers auditeurs, eh bien, restez avec nous. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, juste après le rappel des titres. À suivre dans C'est pas du vent, la ville biomimétique et la semaine du compostage. À tout de suite.